Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Mais oui, l'after est là, comme tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit. On est ensemble pour débriefer la victoire de l'équipe de France face à l'Albanie avant d'évoquer le retour de Neymar la nuit dernière sur les terrains face à la Colombie, qu'on verra peut-être face au Pérou mercredi soir également. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak à mes côtés. On continue l'évaluation, messieurs. Alors que je vous rappelle que la France est leader de son groupe à égalité de points avec l'Islande et la Turquie qui s'imposait un petit but à zéro face à Andorre, prochain adversaire des Bleus.
Nico, est-ce qu'on peut rappeler quand même les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, que c'est pas interdit, peu importe l'adversaire, c'est pas interdit de prendre du plaisir de voir jouer pour une fois l'équipe de France, l'avoir pratiqué un jeu un peu plus léché que d'habitude.
On va le dire, on
même contre des adversaires plus faibles ou équivalents à là tu vas me mettre en porte-à-faux avec l'Albanie. Voilà, on a tout simplement pris du plaisir.
C'est rare pour
on a le droit quand même.
Mais parce qu'on nous, c'est vrai qu'on nous fait le reproche sur la hashtag RMC Live de s'enthousiasmer sur la perf de l'équipe de France et des individualités.
On a mis une danse.
Alors c'est que l'Albanie. L'Albanie, je rappelle que depuis 4 ans, depuis 2014, on galère, on n'y arrive pas, que ce soit en match de qualif, en match amicaux ou même à l'Euro, on les bat à la 90e, l'Euro 2016 en France.
Mais d'une manière générale, on va se répéter par rapport à ce qu'on disait en première partie, mais des matchs comme ça aussi aboutis, même face à des petites équipes, ils ont été rares ces derniers temps, il faut le dire.
C'est vrai, t'as raison.
On a été même presque meilleurs contre des équipes un peu plus fortes, avec le style, en les prenant en contre, en allant très vite vers l'avant, en étant très rapide dans les phases de transition. Mais là, de faire le jeu, d'être aussi serein dans la possession du ballon et dans la créativité et l'inventivité,
aussi avec une attitude de champion du monde.
Bah oui.
C'est-à-dire que certes, l'adversaire est plus faible, mais on joue pas en dilettante. On écrase l'adversaire parce qu'on est bien plus fort que lui. Et c'est le respecter aussi de lui avoir mis une danse ce soir. Bon, alors bon, tu prends le but à la fin qui est anecdotique.
Oui.
C'est pas très grave.
Un pénalty qui n'y est pas d'ailleurs.
C'est une prestation qui aboutit point, peu importe l'adversaire.
Les gars, on va
c'est
pas vrai. Se plaindre. On râle contre la VAR tout le temps. Là, il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas la pénalité.
C'est fait du bien, messieurs. Parlons-en.
C'est cool.
Quel bonheur.
Eh oui.
Un match de foot international sans la VAR. Mais c'est vrai. Pas d'arrêt de jeu, pas de deux minutes à regarder un écran, pas revisionner.
Je me demande si au final.
Voilà, il y a eu pénalty, ils ont marqué leur but, il n'y a pas pénalty, on en a parlé deux secondes, terminé. Bon, il y avait 4-0.
Si c'est un match plus serré que tu le prends.
Au final, le retard qu'on a pris en début de match après cet incident totalement grotesque, le match n'a pas fini en même temps que s'il y avait eu la VAR.
T'as raison, c'est possible. Le hashtag RMC Live est ouvert, bien sûr. L'évaluation continue, messieurs Vocador. C'était Kingsley Coman pour Ludo et.
Non, Kingsley Coman aussi pour moi.
Tu m'as dit Lucas Hernandez.
Ça aurait pu être Lucas Hernandez, mais je mets Coman.
D'accord. Pied carré. C'est dur, pied carré.
Les latéraux albanais,
Non, ouais, bon, aussi, mais.
Chimchichi, peut-être
non, mais il faut le mettre. On a le droit de choisir l'adversaire.
Bah oui. Non, restons sur l'équipe de France pour l'instant.
Désolé, mais le contraste, quand même, j'ai trouvé.
C'est facile.
Tout le monde plutôt bon ce soir.
Ouais, sauf comme d'hab.
Bah oui, mais le contraste est saisissant entre ton latéral gauche et ton latéral droit. Bah, je suis désolé de le dire, mais quand même. Je suis obligé de noter que Pavard, il nous a pas mis un centre correct. On l'a quasiment pas vu aux avant-postes.
Jonathan.
Pied carré, c'est évidemment Benjamin Pavard. Et ça sera pied carré à vie en équipe de France tant qu'il sera titulaire. L'arnaque doit s'arrêter.
Toujours d'accord, tous les deux. C'est fatigant.
Non, pas tout le temps.
Souvent.
Honnêtement, là, c'est assez simple.
Non, mais là, le problème,
parce
c'est que
personne.
Et lui,
il passe pas à côté.
Non, il passe pas à côté de son match.
Mais il apporte pas ce qu'il aurait pu apporter.
Non, mais c'est surtout quand tu vois ce que ça apporte de l'autre côté. Alors, bien sûr, il faut un équilibre. Mais je trouve que même quand il est aux avant-postes, sa qualité de centre,
elle est inexistante.
Elle est pas médiocre, mais elle est pas bonne.
Si. Tu peux le dire.
Elle est pas bonne.
Ne fais pas parler la Lillois Connection. Tu peux dire que sa qualité de centre est médiocre. T'inquiète pas.
Voilà pour le pied carré, le taulier.
Voilà, Lucas Hernandez, c'est obligé.
Voilà, tu l'as préparé. Ah oui. Lucas Hernandez pour taulier. Toi.
Oui, je lui laisse Lucas Hernandez. Moi je prendrais Varane sur ce match. Varane ou Matuidi. Matuidi qu'on n'a pas entendu beaucoup, vu beaucoup, mais il a fait énormément de boulot. Il est en forme, ouais, tu as raison, Nico. Il a des jambes. Et ça cavale intelligemment. C'est toujours au pressing, ça vient couper dès que le ballon ressort. Il laisse rarement le temps à l'adversaire de pouvoir prendre un peu d'oxygène. Donc, et Varane, j'ai beaucoup aimé sa prestation où il aurait pu se contenter de rester mi-terrain, de prendre les ballons et de faire jouer les autres et de jamais prendre de risques.
Il a cherché le vertical. Il a pris ses responsabilités.
Et cette passe pied gauche.
Ouais.
Mais sur là, le premier but. C'est qu'il a pris ses responsabilités, se comporter comme un patron. Il a vu que le bloc était assez haut, donc il a pris l'initiative de monter d'un cran, et très bien.
On commence à avoir des patrons comme en équipe de France là, parce qu'il y a l'émergence de Lucas Hernandez, qui a un profil potentiellement qui pourrait être capitaine un jour, patron des Bleus. Varane est un patron désormais.
Varane, tu te rends compte, et il a 4 Ligues des Champions.
Non mais attends, attends, 24, 25 ans. Vous oubliez pas
une Coupe du Monde.
Je veux pas en faire trop là-dessus, mais rappelons-nous ce qu'on disait, comme je disais hier, de Varane et d'Umtiti avant que Lucas Hernandez intègre l'équipe de France. Je pense que l'intégration d'Hernandez, d'avoir un chien de la casse comme ça à côté qui cavale et qui voilà, je pense qu'il transmet sa grinta et son état d'esprit à l'ensemble de la ligne arrière. Donc pour moi c'est lui le vrai patron.
Je crois que Clément Langlais aussi apporte une
c'est serein.
Il apporte une certaine sérénité à Raphaël Varane. Je trouve qu'il le bonifie plus qu'Umtiti.
Après, moi, le doute que j'ai là-dessus, c'est attention quand on aura des adversaires d'un plus haut calibre. Je suis jamais très fan d'avoir deux défenseurs centraux qui ont un petit peu le même profil. J'aime bien avoir un vrai stopper et un vrai relanceur.
Et le libéro et le stopper.
Enfin, ouais. Là, je suis peut-être un petit peu arriéré.
Non, mais t'es pas arriéré, mais tu es rétrograde. Non, je pense que tu
es réactionnaire. Merde. Ça me touche.
Tu vois, Varane, tu portes trop le cliché que c'est qu'un joueur de ballon. Moi, Varane, je suis désolé, je regarde les matchs. Et pareil pour Emerick Laporte à City. Et en Angleterre, mon gars, quand t'as les attaquants, là, les drôles de bestiaux devant, les AA, les machins, les trucs, je veux dire, si t'as pas un minimum d'agressivité, tu te fais bouffer c'est pas le cas.
On est d'accord que les deux, leur point fort, c'est l'anticipation et le placement.
Mais bien sûr. Mais Varane va au duel de la tête avec lui, tu vas voir.
Mais j'aime bien avoir quand même un joueur qui soit vraiment, voilà, le profil du vrai stopper, qui me sait faire un petit peu la
bagarre. Moi, si tu peux avoir les pieds et en plus.
Mais Hernandez, il a les deux, mon pote.
Oui, mais Hernandez, je t'ai dit, là, regarde le match qu'il fait à gauche. On va pas se priver de l'anglais. On va pas se primer de l'anglais dans l'axe, alors qu'on a un mec qui est excellent à gauche.
Je veux bien, mec, c'est difficile. Et quand Lucadine entre, et Lucadine fait des belles saisons en Angleterre, il y a eu, en fin de match, 2-3 situations qui sont passées sur son côté.
Khalif, au 32-16, nous a appelé. Salut, Khalif.
Allô, oui, bonsoir.
Salut, d'être avec nous. Bah, dis-nous d'abord, globalement, qu'est-ce que tu penses de la prestation de l'équipe de France? Est-ce que, comme nous, t'es quand même, t'arrives à dire que t'as pris du plaisir? Ah, on écoute Deschamps. Voilà. Excuse-moi, Khalif, priorité, Didier Deschamps en conférence de presse.
La position qu'on avait, dans la qualité technique, à faire circuler ce ballon d'un côté à l'autre, et après, la prise d'initiative individuelle, voilà, l'ensemble des joueurs ont joué au même diapason ce soir. Ils se connaissent, même si c'est pas toujours ceux-là qui ont débuté tous les matchs, mais ils connaissent le niveau international. Donc voilà, face à une équipe, le match a semblé facile pour nous, mais parce qu'on a fait ce qu'il fallait.
Eh oui.
Même si on s'est un petit peu relâché à la fin, mais grande maîtrise. On a eu des actions de grande qualité parce que. Voilà, circulation rapide et puis justesse technique et des joueurs qui sont capables aussi de percuter, d'accélérer, de déstabiliser une défense, même si elle est regroupée avec 3 défenseurs axiaux. Et on a eu énormément le ballon et la possibilité de... Je crois que c'est rare qu'on ait fait un match avec autant de passes. Je crois qu'on est à plus de 900 passes sur le match. Après, faire des passes, c'est pas pour faire des passes à 2 mètres, mais c'est toujours des passes pour décaler, d'aller d'un côté de l'autre, trouver la verticalité. Donc, une belle copie ce soir de l'ensemble du groupe.
Bonsoir Didier, Samuel Olivier, Beansport. Oui, qu'avez-vous pensé de la performance de Kingsley Coman? Et est-ce que sa performance peut lui servir de déclic en bleu?
Il y a un moment que Kingsley était avec nous, il était là avant l'Euro, il était plus jeune. Voilà, aujourd'hui, son match, il est plus à l'image de ce qu'il fait depuis un an avec le Bayern, parce qu'il est efficace. Il est plus attiré par le but, il est plus décisif. Après, il a toujours eu cette capacité de déstabiliser l'adversaire. Donc, faire en sorte de qu'il lui arrive rien de mal sur le plan athlétique, mais quand il est comme ça, c'est difficile pour les adversaires, et comme c'est un joueur qui est capable de faire des actions individuelles, mais de faire des actions collectives aussi, ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau et par rapport à la grande performance qu'il a réalisée ce soir.
Bonsoir, Jean-Ré Séguier, MC Sport, oui. Tout en haut. Didier, je voulais revenir juste sur le protocole de la rencontre et ce qui s'est passé. On t'a senti bien embêté avec pas mal de gens autour et l'incompréhension du public. Concrètement, comment as-tu vécu cela? Et est-ce qu'il y a eu réellement des excuses officielles faites au peuple albanais?
Oui, mais bien sûr, moi je me suis excusé auprès du banc technique et de Eduardo Herrera, et puis notre président l'a fait aussi dans les tribunes. Voilà, c'est quelque chose qui devrait pas arriver, malheureusement qui est arrivé. Bon, on discutait avec l'arbitre, je comprends tout à fait la position des Albanais, même si j'avais pas compris au moment les sifflets, mais voilà, c'est arrivé, malheureusement. Je m'en excuse encore maintenant, et c'est logique qu'on ait attendu que les Albanais puissent avoir leur rythme avant ce match-là.
Voilà, la bonne réponse en tout cas, pleine de sagesse et diplomatique de Didier Deschamps. Après, le couac de la soirée, c'était pas le match de l'équipe de France, c'était l'avant-match de l'équipe de France. L'hymne de Andorre, diffusé, joué à la place de l'hymne albanais. Voilà pourquoi ce match a démarré à 21h53, à 20h53 plutôt qu'à 20h45. On en a déjà parlé, je rappelle que Noël Le Graët s'est excusé également auprès de l'ambassadeur de l'Albanie en France.
C'est regrettable, mais bon, l'erreur est humaine, tu vois.
Non, pas là-dessus, je suis désolé, parce que si tu dis l'erreur est humaine, quand il y a des incidents diplomatiques qui déclenchent des choses graves, on dit l'erreur est humaine. Alors là, c'est loin d'être le cas, mais c'est quand même grave, je suis désolé.
Il n'y a pas mort d'homme, arrêtez.
Le football est un miroir des relations internationales d'une certaine manière.
On est revenu, on s'est excusé, on a repassé. Il y a rien d'offensant non plus.
Non, mais l'amateurisme, c'est l'enchaînement des cagades.
Ah oui, bah l'amateurisme, c'est dramatique. C'est autre chose.
Jonathan, bon, voilà, on s'est excusé. Effectivement, bon, c'était pas volontaire, c'était une maladresse, une faute professionnelle.
Oui,
effectivement, tout le monde s'est excusé. Faut voir comment on réagit également.
C'est la moindre des choses.
Oui, non, mais c'est
voilà, bah, c'est fait. Voilà. On passe à autre chose.
Allez, on passe à autre chose. On va poursuivre l'évaluation avec Khalif également. Khalif, qui est ton cador ce soir, toi?
Mon cador, c'est Hernandez.
Ouais.
C'est un petit clin d'œil déjà à Jonathan, parce que hier il avait fait une petite rubrique dans laquelle effectivement il voulait le voir évoluer et s'installer en tant que défenseur central gauche. On a pu voir effectivement il y a une belle complicité avec Lemar. Il a apporté pas mal offensivement. Il est dans tous les bons coups effectivement de l'équipe de France. J'ai beaucoup aimé également la relation entre Matuidi et Tolisso.
Oui.
On s'est inquiété un petit peu des absences de Pogba et Kanté. Et je pense que ça a été sobre et efficace, il n'y a pas eu de fleuriture, et ça a amené effectivement un peu de rapidité sur les côtés, avec une belle prestation également de Coman, parce qu'il était attendu, il y avait un petit peu des doutes avec des performances qu'il n'avait pas confirmées en équipe de France, mais il est dans la lignée effectivement de ses performances depuis le début de l'année avec le Bayern de Munich. On s'inquiétait un petit peu d'absence de Mbappé, et je pense que ce sont des joueurs qui ont répondu présent. Et qui fait qu'aussi il y a une belle association devant, avec Giroud qui a confirmé. Même si effectivement j'aurais aimé peut-être voir en fin de match une alternative
pour commencer
petit à petit à s'appuyer sur peut-être une alternative à ce qui a été proposé jusque-là. Globalement donc un match de rentrée très satisfaisant. Historiquement on sait que ces matchs de rentrée c'est des matchs dans lesquels on galère pas mal. Et je pense que même si l'adversaire a pas montré grand-chose, globalement on peut être satisfait parce que c'était fluide, on a pris du plaisir et puis ils ont joué jusqu'au bout. Après le petit bémol c'est ce but à la fin. Un manque de concentration globale de l'équipe. Mais voilà, moi, je retiens pas mal de bonnes choses, en tout cas, pour ce qui est de la prestation de ce soir. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est Ikoné à la fin, premier but.
Et oui, Ikoné qui marque.
C'est super pour lui. Et puis, c'est un titi parisien, donc
c'est
un grand supporter.
C'est vrai, le gars, ça. Voilà. Il est plus parisien qu'il doit, finalement.
C'est un ch'timi, maintenant.
C'est un ch'timi, maintenant, ouais, effectivement. Voilà. Comme Kingsley Coman est un parisien aussi. Titi parisien. Un des nombreux joueurs parisiens formés au PSG qui est parti s'émanciper ailleurs.
C'est le joueur sur lequel le PSG peut avoir le plus de regrets, je pense. Dans les jeunes qu'ils ont laissé partir.
Ouais, a priori, ouais, c'est ça. Khalif, avant de te libérer, ton taulier, c'est qui?
J'ai pas entendu, excuse-moi.
Ton taulier, ce soir, c'est qui?
Mon taulier, je vais mettre Coman.
Ouais, évidemment. Et ton Casper?
Ouais, je vais être dur, mais je pense que c'est Pavard.
Waouh,
on est d'accord sur que,
Mais tiens, à un moment donné, on n'est plus dur, on est juste réaliste.
C'est quoi l'histoire, messieurs? Il est surcoté, il jouit de l'héritage de son but contre l'Argentine. Il n'a pas sa place en équipe de France carrément. Non, mais est-ce que Benjamin, quand même, c'est qu'un gars qui a signé au Bayern de Munich.
Oui.
C'est pas tout le monde ne peut pas se tromper. Deschamps se trompe pas. Kovac se trompe pas au Bayern.
Benjamin Pavard, c'est l'histoire d'une opportunité qu'il a su saisir, l'opportunité du manque de réserve, du manque de réserve au poste de latéral droit en équipe de France, l'opportunité d'une saison, allez, on va dire pas mal avant la Coupe du Monde avec son club, l'opportunité d'avoir joui d'une réputation de champion du monde qu'il a amené à signer au Bayern Munich. Mais voilà, d'une part, ce n'est pas un latéral droit, son remplacement était une pure,
le vrai problème, il est là.
Il n'est pas bon surtout.
Le vrai problème, il est là.
Au Bayern, messieurs, en équipe de France.
Et même quand il joue en défense centrale, il est pas bon.
Mais il joue latéral droit au Bayern parce que quoi? Parce que le titulaire est blessé. Quand le titulaire va revenir, il va plus jouer.
Ah, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est un peu polyvalent.
Khalif, vas-y, Khalif.
Ouais, si je peux me permettre, après, pour avoir suivi les derniers matchs du Bayern de Munich, je pense que c'est surtout que Niko Kovac, il a essayé de, parce que, comment ça s'appelle, Joachim Löw, avec l'équipe d'Allemagne, d'insérer
Kimmich
un peu
ouais.
plus haut.
Ouais.
C'est ce qui a été fait lors du dernier match avec l'association avec Thiago Alcantara. Ce qui a permis effectivement à Pavard de jouer. Il a mis un super but dans ce match-là qui a été effectivement compensé, qui a compensé son erreur sur le premier but de l'adversaire. Mais je pense qu'il mange surtout sur la Coupe du Monde. Dans un premier temps, sur l'absence de latéral droit, parce que Sidi Bé, il s'est un peu effectivement exilé. Je pense pas qu'il va revenir de sitôt. Alors que a posteriori à gauche avec Hernandez, avec Mendy, s'il revient effectivement parce qu'il a eu pas mal de blessures,
Ferland
il y a
et Benjamin.
Un peu plus de choix. Mais c'est surtout que dans l'esprit de la Coupe du Monde, ça a apporté à un moment donné où l'équipe de France prenait pas mal de buts et était assez fébrile, une certaine solidité en associant effectivement ces quatre défenseurs qui ont pour vocation d'être plutôt centraux à l'origine. Et il n'y a pas vraiment de joueur qui est sorti du lot depuis à ce poste de latéral droit.
C'est
donc
vrai.
Tant qu'il se passera pas grand chose de son côté et que voilà, il va rester pour l'instant parce que il y a personne qui tape à la porte. Léo Dubois est en train d'arriver, il va arriver avec la Ligue des Champions, on va pouvoir le voir un peu à un niveau un peu plus élevé parce qu'il est resté sur les matchs de Ligue 1, mais sinon c'est désert pour l'instant. Il y avait Malcuit peut-être, mais bon à Naples
il joue pas,
il n'arrive pas à rester dans la continuité. Donc après peut-être le petit Dagba, on a vu ça va peut-être faire sourire
certains
effectivement aujourd'hui, mais après si parce que j'ai l'impression que Thomas Tourelle pour l'instant il a ses faveurs, s'il arrive à s'insérer dans le collectif et qu'il arrive à monter en compétence, pourquoi pas après.
Ouais.
Je veux dire qu'on est en septembre, l'Euro il est dans 8-9 mois, ça peut
aller très vite. Et on rappelle que Pavard Hernandez, 6 mois avant le mondial, il n'était pas dans l'équipe
exactement.
De France. Merci Khalif d'avoir fait 32-16.
Si juste avant de vous laisser, comme c'est la première fois, donc j'ai une grande dédicace à Losmosos, Harlem Team, Bebeso et Izlou. Ils vont se reconnaître et merci à vous, restez comme
ça. Merci à toi.
Merci Khalif d'avoir écouté l'after et n'hésite pas à rappeler pour une deuxième fois.
On t'a parlé du PSG par exemple.
Du PSG
avec
par
plaisir.
Exemple. Excellente soirée à toi Khalif. Je vous rappelle la victoire donc de l'équipe de France 4-1 face à l'Albanie. Dans un instant, on va parler également de l'Angleterre, du Portugal. Soulagé, hein, qui était très mal embarqué, qui s'impose 4-2 ce soir en Serbie. Le tennis, est-ce que Serena Williams va enfin gagner un 24e titre en Grand Chelem? Ce serait un record égalé. Eric Sayo est sur place à New York.
Ouais, c'est très très mal embarqué pour l'américaine puisqu'elle est distancée au score 6-3-3-1 pour Andreescu qui livre un match fantastique. Il n'a peur de rien, elle a un caractère et un tempérament vraiment incroyable. Je sais que les Européens, les Français peut-être la découvrent, hein, mais on s'en doutait qu'elle poserait beaucoup de problèmes à Serena. Ça se confirme, elle est au service la canadienne pour consolider son avance.
Eric, Serena, ça fait mal, on a mal pour débriqué, Serena
mais ça ne suffit pas.
On a mal pour Serena, hein. C'est la quatrième fois qu'elle est chourée devant le 24e.
Ouais, mais bon, c'est la jeunesse de Andreescu pour l'instant qui prédomine. Elle est juste fabuleuse, et on s'en doutait. Et Serena, logiquement, comme lors des trois dernières finales de Chelem, elle est crispée. Beaucoup de doubles fautes qui lui ont coûté des breaks, parce que servir à une double faute sur des balles de break, c'est pas digne d'une championne comme Serena, et pour l'instant, ça lui coûte très très cher. 6-3, 3-1, 40-0, 45 désormais pour Bianca Andreescu, 19 ans seulement.
Merci Eric, on vient pour la fin du match, peut-être avec toi, hein, si elle se termine en deux manches pour la Canadienne. Andreescu, tiens, avant de marquer une pause, Jonathan, réaction de Petit Prince du Parc sur la chaîne RMC Live. Je pense que le joueur du PSG qui peut donner des regrets, c'est Moussa Dembélé et non comment.
Oh,
c'est un peu tôt encore, hein, peut-être, on verra plus tard.
J'aime bien Petit Prince du Parc, mais là, c'est quand même un peu dur ce qu'il dit.
On verra comment va évoluer la carrière de Moussa Dembélé. Hein, oui. Aussi.
Bien sûr, c'est un bon joueur. Hein. Mais je pense que Coman, c'est un joueur qui est amené à devenir un très bon joueur.
L'after continue, on revient. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. La victoire de l'Angleterre, celle du Portugal, également le retour de Neymar sur les terrains la nuit dernière face à la Colombie. Et puis le quiz, fin d'after du samedi soir, l'after de l'élégance, l'after des chemises, l'after des imberbes, l'after des cheveux. A tout de suite, on est ensemble jusqu'à minuit.
L'after du gène. L'after du gène. Mais les autres, ils peuvent pas dire l'after des cheveux, hein, certains.
A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
Comme tous les soirs jusqu'à minuit, c'est l'after sur RMC, à la radio, à la télé, sur RMC Sport News. Bien sûr, Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, l'équipe du samedi, messieurs. Je rappelle que la France a battu l'Albanie 4-1. La France est leader de son groupe avec l'Islande et la Turquie. Le groupe B, celui du Portugal, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Nations, en grand danger avant cette cinquième journée. Le Portugal était lâché au classement. Déplacement en Serbie, il fallait absolument s'imposer. Le Portugal a gagné 4-2 en Serbie. Début de Carvalho, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva contre début de Milinkovic et Mitrovic pour la Serbie. Énorme soulagement pour le Portugal. On en parlait tout à l'heure, qui peut faire, en cas de qualification, extrêmement mal à l'Euro 2020.
À grand danger, grand moyen. Ils ont sorti le match qu'il fallait ce soir. Ils ont une armada offensive qui est plus qu'impressionnante.
Après, il n'y avait pas Joao ce soir.
Il est rentré, Joao Félix.
Il n'était pas titulaire, ouais. T'imagines
la composition du Portugal.
Entre ce qu'on a vu de l'Angleterre, des Pays-Bas,
le Portugal.
La France, ça laisse quand même peut-être envisager un euro sympathique.
Et je pense surtout qu'on va avoir un chamboulement des forces en présence habituelles, parce que je pense que pour le coup, sur l'euro, je sais pas si l'Espagne et l'Allemagne, qui étaient les deux favoris habituels de la compétition, je sais pas si voilà, j'ai l'impression que les tendances sont un peu en train de s'inverser et que le Portugal, que les Pays-Bas, que la France seront plus favoris que l'Espagne.
Attention à l'Angleterre, on en parle dans un instant avec Julien Laurence. La victoire 4-0 des Anglais à Wembley face à la Bulgarie. La composition du Portugal, c'était Rui Patricio dans le but. Eric Salio, vite, on fait un point. C'est chaud pour Serena Williams, finale de l'US Open.
Ah, c'est un calvaire. Elle vient calvaire. 6-3-5-1 pour Bianca Andreescu. Je répète, 6-3-5-1. Elle s'écroule totalement, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. On sent qu'elle est en panique parce que, une fois de plus, le 24e Grand Chelem lui échappe. Et c'est la faute, vraiment la faute de Bianca Andreescu, qui fait une finale formidable à seulement 19 ans.
On dit ça à chaque fois.
Elle n'a jamais tremblé.
Pardon, on dit ça à chaque fois que c'est la faute de l'adversaire de Serena Williams, mais c'est la patronne.
Ah, mais là vraiment, non, mais elle a une qualité de balle, la canadienne, qui est juste exceptionnelle. Elle sait tout faire. Là, il y a un échange fantastique. Si elle remporte ce point, et non, elle le remporte pas, Bianca, mais elle sait tout faire. Elle peut frapper très fort, elle peut varier les hauteurs de balle. Donc c'est une petite filoute. Et puis surtout, je ne cesse de le répéter, mais ça se confirme, elle a un tempérament extraordinaire. Son entraîneur nous disait hier que là, c'est une guerrière, une chienne sur un court. Une chienne, bien sûr, faut le prendre au terme. C'est absolument pas péjoratif, oui, mais c'est une fille qui ne lâche rien.
Une guerrière.
Et on l'a vu. Une guerrière. On l'a vu en début d'année. Elle a gagné Indian Wells. Elle a gagné Toronto il y a un mois. On savait que c'était une fille qui pouvait faire des ravages. Et là, elle est en train de faire très très mal à Serena Williams, dont l'image était cornée. Parce que si elle perd, voilà, la balle de match à l'instant, 6-3-5-1, 40-30. Si elle perd, ce sera sa quatrième finale perdue. C'était à chaque fois une occasion en or pour égaler Margaret Court, la grande championne australienne, qui est d'ailleurs dans les tribunes ici à Flushing Meadows. Mais à chaque fois, eh bien, il y a un petit grain de sable. Là, c'est un gros grain de sable qui s'appelle Bianca Andreescu. Il y a eu Angelique Kerber à Wimbledon, il y a eu Naomi Osaka l'an passé, il y a eu Simona Halep, et là c'est une autre joueuse d'origine roumaine, Bianca Andreescu, qui va peut-être remporter cette finale. Balle de match sauvée à l'instant par Serena Williams. C'est un petit miracle, c'est un retour gagnant de coup droit après seulement 1h16, ça a filé très très vite, mais Serena a craqué à chaque fois dans les moments importants, puisque on peut pas se permettre de se servir des doubles fautes sur des balles de break. Et donc là, elle est encore à 2 points d'un désastre d'une nouvelle défaite en Grand Chelem.
Allez Eric, on y revient à toi dès qu'il y a une nouvelle balle de match. S'il y a une nouvelle balle de match pour Andreescu, imaginez le retournement de situation improbable, Serena Williams qui renverse tout. Pourquoi pas l'Angleterre.
Toi, t'as de l'espoir, toi.
Hein ? Non, mais c'est impossible. L'Angleterre, on a parlé du Portugal, vainqueur 4-2 au classement. Je fais le point sur le classement du groupe B. L'Ukraine caracole en tête, 13 points avec 5 matchs joués. Le Portugal, 3 matchs joués seulement, hein. 5 points à 8 points du leader. Luxembourg, 3e avec 4 points. La Serbie est 4e, Lituanie est dernière.
Ouais. Bah, Luxembourg, à l'image de son club phare, du Lange, qui progresse maintenant d'année en année. Commence à sortir du bois. Ils ont, ça fait 2 années de suite.
Du bois, ils jouent en équipe de France.
Ouais, bon.
Allez. Bravo, celle-là, elle était belle. Voilà, Ludo, prends exemple un petit peu.
Ouais, bon. Allez, passons.
Mais non, elle était bonne.
Le mec, il a fait que ça toute la soirée.
Il sort des une saccage des dagues et tout. Non, mais attends un peu. Elle était bonne celle-là. Allez, arrête un peu.
Alors, je mettais en lumière Dudelange et là, tu me coupes dans mon élan.
Ouais, bon, on s'en fout d'un côté.
L'Angleterre a joué un peu plus tôt dans la journée. Voilà. L'Angleterre, magnifique. Perfide Albion. Victoire 4-0 face à la Bulgarie. Triplé d'Harry Kane et un but de Raheem Sterling, lui aussi, hein, qui se balade avec l'équipe d'Angleterre. Julien Laurent, c'est avec nous. Salut, Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Bon, alors autant il y a beaucoup de supporters français qui disent c'était que l'Albanie ce soir. Comment on a réagi en Angleterre face à la victoire étincelante face à la Bulgarie?
Un petit peu pareil pour être vraiment honnête. Oui.
T'es faible en face.
Par exemple. Voilà, c'est ça, exactement. C'était très faible d'ailleurs cette équipe de Bulgarie. Première période. Sur un rythme assez moyen, on va dire, pour les Anglais, qui ont ouvert le score avec Harry Kane sur une passe de Sterling, et puis ça a été beaucoup mieux, j'ai trouvé, en seconde période. Ça s'est accéléré, ils ont passé la vitesse un petit peu supérieure, tu l'as dit, hein, le triplé d'Harry Kane, un autre but pour Raheem Sterling aussi. Il a fait rentrer ses remplaçants, Southgate notamment, Mason Mount, le jeune joueur de Chelsea qui a fêté sa première sélection. Donc au final, c'était une belle après-midi à Wembley, mais c'est vrai que l'opposition fait que tu peux pas non plus tirer grand chose d'une rencontre pareille. Les Anglais, c'est simple, hein, visent un sans faute, que des victoires dans ces qualifs, et après ils verront avec cet Euro, dont les demi-finales et la finale seront à Wembley, pour vraiment pouvoir jauger leur équipe et juger ce que Southgate a, pardon, mais sur le match aujourd'hui, on peut pas non plus en tirer grand-chose.
Jonathan. Ah non, moi je refuse de parler de ce match tant que le numéro 4 anglais, dont je veux tairai le nom, est aligné.
Rice. Pourquoi?
Faut pas demander à Julien.
Julien?
Alors.
Mais dis-nous pourquoi.
Parce que.
Tu m'éclaires là.
Parce que.
Pas avec Rice.
Disons qu'il jouait avec l'Irlande. Il a eu des sélections avec l'Irlande. Il a été élu meilleur footballeur de l'année irlandais. Et puis finalement, il a retourné sa veste pour aller avec l'Angleterre. Et ça a vraiment fait un scandale au pays. Mais bon, non, c'est blague à part. Non, mais cette équipe, elle est très séduisante. Alors la question, Julien, qu'on a pour toi, c'est ce qu'on disait avant la Coupe du Monde, c'était que voilà, l'Angleterre, équipe d'avenir. Équipe jeune, équipe avec beaucoup de potentiel. Est-ce que tu penses que, de ce que tu vois sur cette année écoulée, est-ce que l'Angleterre peut arriver à avoir un costume un peu plus favori que lors de la Coupe du Monde?
Il y a une dynamique très positive, forcément, après la Coupe du Monde et la Ligue des Nations. En Ligue des Nations, je pense qu'ils se sont vus, à un moment, ils se sont vus la gagner, peut-être un petit peu trop rapidement. Et je pense que les résultats au Portugal ont déçu tout le monde. C'est-à-dire qu'ils étaient passés d'une nation qui, finalement, n'espérait plus grand-chose, parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'y arrivaient pas dans les grandes compétitions, à une nation qui, d'un seul coup, s'est dit « Bah oui, mais en fait, on peut tout gagner maintenant. On est capable de tout gagner avec cette génération-là, ce sélectionneur-là, ces joueurs qu'on a, etc. » Et la Ligue des Nations, je pense qu'ils se sont vus un petit peu trop beaux. Ils se sont revenus sur terre un petit peu. Ces qualifications, ces éliminatoires, on l'a dit, ils sont dans un groupe bien trop facile pour eux. Je pense qu'ils perdront pas un seul point. Et après, on verra à l'Euro cet été. Mais effectivement, ils y croient de plus en plus. Et pour eux, Chris Waddle le disait aujourd'hui sur la BBC, il dit maintenant, tout ce qui est important pour nous, c'est ces compétitions-là, les vraies compétitions. Et l'objectif, ça doit être au minimum une demi-finale à l'Euro 2020.
Il y a un homme là que je voulais évoquer, c'est Raheem Sterling. Julien, il est dans une forme flamboyante en début de saison. 5 buts en 4 matchs avec City. Là, il met 5 buts en 3 matchs dans ses qualifs, hein, pour l'instant, ouais, avec l'équipe d'Angleterre. Il devient, bon, plus qu'un taulier désormais pour l'équipe d'Angleterre. On parle beaucoup d'Harry Kane, mais ce que fait Raheem Sterling, ça devient très fort.
Enfin, ouais, ça devient très fort. Oui, t'as raison. Non, mais c'est sûr. Après, aujourd'hui, c'était bien trop facile pour lui, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est les paliers qu'il a passés sous Guardiola depuis l'arrivée de Guardiola, oui, à Manchester City. Et notamment, je pense, autant en joueur de foot, ça, y a aucun doute là-dessus. De toute façon, le talent était toujours là depuis qu'il était très jeune. Mais aussi en tant qu'homme. Et je pense que la saison passée, avec ses prises de position, notamment contre le racisme, des prises de position très publiques, où on l'a beaucoup entendu, même chez nous, même sur RMC Sport en direct, avant le match contre Tottenham en Ligue des Champions, on l'a eu en interview, où il a aussi parlé de ces problèmes-là. Ça l'a complètement changé. Et ça l'a aussi fait rentrer dans une autre dimension, parce que maintenant, il est devenu un petit peu comme une icône ici en Angleterre, notamment pour ses prises de position contre le racisme. Mais après, il fallait aussi qu'il continue à assurer sur le terrain, et ça, il a su le faire. Il n'est pas simplement devenu ce porte-parole anti-racisme en Angleterre, il est aussi devenu ce joueur qui maintenant fait gagner ses équipes, que ce soit Manchester City ou l'équipe d'Angleterre.
Et Julien, juste blague à part, il a été comment de Declan Rice? Tu l'as trouvé comment?
Non mais c'est juste pas, parce non, que c'est mais sur un match bon contre... Non mais Joe a raison, hein. C'est vrai qu'à un moment, au moment où il a choisi finalement de jouer pour l'Angleterre plutôt que l'Irlande, ça a fait un petit peu grincer des dents côté irlandais. Les Anglais se sont dit, nous on s'en fout, on récupère un très bon joueur, on récupère un très bon jeune joueur. Eux ils étaient contents, les Anglais. Après ça arrive tout le temps, hein. Et puis l'inverse aussi, ce fait que des joueurs qui pourraient jouer pour l'Angleterre
ne jouent
pas pour l'Angleterre.
Juste Julien, c'est le timing, il venait juste d'être nommé footballeur irlandais de l'année, quoi.
D'accord. Au moment où il avait, ouais. Je sais pas, ouais, il avait pas beaucoup de sélection non plus. Tu vois, les Irlandais, c'était un peu enflammé aussi sur le phénomène. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est la règle, hein. S'il n'y avait pas cette règle-là, il n'aurait pas pu jouer pour un autre pays, comme d'autres joueurs, comme Diego Costa, comme plein d'autres joueurs.
Tu connais l'histoire entre les deux pays, du coup, du fait, tu peux comprendre que pour nous, ça soit un petit peu,
oui,
un
non,
petit
mais peu décevant, quoi.
Mais tu l'as trouvé comment? Après, il a été bon?
Dans un match comme ça.
Avec Ludo.
Non, mais dans un match comme ça, après, il est, c'est pareil, c'est difficile de tirer beaucoup de choses d'une performance contre une équipe pareille où les Anglais ont eu beaucoup de ballons, ils se sont plus ou moins baladés. Moi, je pense que c'est un très très bon joueur dans ce poste de sentinelle là que les Anglais n'ont pas eu peut-être depuis Michael Carrick. C'est pas non plus le poste qui va leur faire gagner un Euro ou une Coupe du Monde.
Pour l'équipe,
il fera partie effectivement. Voilà, mais il fera partie, hein, je pense. Et puis il est surtout encore très jeune. Hein, il va progresser. Et puis je pense qu'avec West Ham et Pellegrini, c'est un bon club pour lui pour l'instant. Après, il ira plus haut, c'est sûr. Il y a aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, il fait du très bon travail.
L'Angleterre, d'Angleterre en 3 matchs de qualif, là, c'est 14 buts marqués, un but encaissé pour l'instant. Le point sur le classement du groupe A, celui de l'équipe d'Angleterre, leader avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Deuxième, messieurs, deuxième, le Kosovo. Première participation au qualif de l'Euro. Ils avaient déjà fait sa première qualification mondiale. Superbe histoire pour le Kosovo, hein, qui est à un point, mais avec un match en plus, mais 2 points d'avance sur la République tchèque que le Kosovo a battu cet après-midi. 2-1. Et Julien, d'ailleurs, le prochain match de l'équipe d'Angleterre, c'est face au Kosovo.
Mardi soir, effectivement.
Mardi soir
à Wembley. Et même si je pense que les Anglais, encore une fois, hein, devraient être supérieurs, ce sera une belle histoire, et une très belle histoire. Et on verra ce que cette équipe du Kosovo peut venir faire à Wembley.
Beaucoup de joueurs d'origine albanaise, en tout cas albanais qui sont d'origine kosovarde. On pense au Xhaka notamment. Il y en a un joue en Suisse, l'autre a joué ce soir face à l'équipe de France. Le Kosovo, deuxième de ce groupe désormais. Voilà donc pour l'Angleterre. Merci Julien.
Salut Julien, bonne soirée.
Excellente soirée à toi. On revient dans un instant, après avoir parlé pendant un quart d'heure de Declan Rice. Ludo, c'est intéressant.
Mais c'est un bon joueur, il sera titulaire. Hein. C'est un vraiment bon joueur, vous verrez quand il finira dans un grand club.
23h43, c'est l'afterfoot sur RMC à la radio, à la télé, sur RMC Sport News. On est en train de perdre Ludo Bragnac qui est là depuis 15h30 à l'antenne. On revient dans un instant pour évoquer notamment le retour sur le terrain de Neymar. Oui, le nez a rejoué, le nez a brillé. Une bonne nouvelle pour le PSG. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'afterfoot. Nicolas Jamain.
Et oui, c'est le dernier quart d'heure de l'afterfoot avec le très en forme Ludovico Bragnac et Jonathan McCarty pour suivre notamment dans l'afterfoot la fin de la finale, ou peut-être pas la fin d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Serena Williams contre Andreescu, la canadienne. Se passe un truc de fou, Eric, peut-être.
Peut-être. Écoutez, je pèse mes mots habituellement, mais là, je vais vous dire un truc. Serena Williams dispute le jeu le plus important de sa deuxième carrière. Pourquoi ? Parce qu'elle était au bord du gouffre. Il y avait 6-3-5. Elle a sauvé le match. Elle vient d'aligner 3 jeux d'affilée. Si elle recolle à 5 partout, je vous dis pas l'ambiance dans le H Stadium. Et voilà, 35, Serena est à 2 points de recoller à 5 partout. Cette finale est en train de tourner. Vous savez, hein, un match de tennis, ça tourne. Et bien là, on est en train de vivre le turning point. Bianca Andreescu est moins sereine. Elle vient de prendre de plein fouet les 23 000 spectateurs qui hurlent. Il y a des stars dans le stade. Il y a Spike Lee,
il y a Meghan
qui est venue d'Angleterre. Et là, c'est compliqué pour la Canadienne de vivre ça. Et donc, Serena va peut-être recoller à 5 jeux partout alors qu'il y a 20 minutes. Était, ça y est, il n'y avait plus qu'à jouer le cercueil. Il y avait 6-3-5-1, balle de match. Serena qui commet double faute, attention, 30. Alors là, elle se met en danger. C'est bête parce qu'elle était en train de reprendre la main dans cette partie. Mais là, elle offre 2 points sur 2 doubles fautes à la Canadienne. Attention, peut-être une nouvelle balle de match à venir.
Allez, on reste
pour
avec toi.
Bianca Andreescu. 6-3-5-4, 30. Patrick Mouratoglou, stoïque. Je pense que son cœur, il bat à 20 000 là. Parce qu'il sent que ça se joue tout de suite. Première balle de service, faute. Filet. Attention Serena, elle est trahie par son service depuis le début de cette finale. 8 doubles fautes, mais surtout un pourcentage catastrophique. 46% de première. Si elle va à la faute, si elle commet la double faute, ce sera balle de match pour Bianca. Elle est dedans. Retour à out. 40-30. Balle de 5 partout.
C'est dingue.
Ça craque des deux côtés. C'est monstrueux.
On rappelle qu'elle elle a 19 ans. Elle a 19 ans, Andreescu. Ouais. Première finale en grand chelem.
Ça peut se comprendre.
Et oui.
Ça peut se comprendre. Et c'est vrai que sur la balle de match, elle n'a absolument rien à se reprocher. Elle a pris un missile. Mais derrière, elle a commis des petites boulettes. Et là, c'est plus la même chose. Balle de 5 partout, donc pour Serena Williams, dans une atmosphère de folie. Première balle, filet. Attention, Serena. Elle n'est pas sereine non plus, mais bon, c'est tellement tendu, là, cette finale, que ça va se jouer sur un détail. Il faut que Serena s'applique, surtout n'aille pas à la faute. Petite deuxième, toute petite deuxième, et Bianca qui va à la faute. Elle offre 2 points, la Canadienne, voilà, 5 jeux partout.
Incroyable.
C'est totalement relancé. Peut-être qu'on n'aura pas le résultat avant minuit.
A priori, ouais, il y a de grandes chances, en tout cas, pour qu'on ne l'ait pas avant minuit. Merci, Eric, on revient vers toi avant la fin de l'after. Il nous reste 7 minutes 06, messieurs, pour parler notamment de Neymar. Et avant le quiz spécial. Sélection nationale. Neymar, hier soir, la nuit dernière, face à la Colombie, à Miami, en Floride,
ouais.
4 mois après l'avoir vu sur un terrain, la finale de la Coupe de France perdue contre Rennes est réapparue. 93 minutes de jeu, un but, une passe. Bon, 2 partout face à la Colombie,
ouais.
Brillant.
Mais il a été très bon.
Dans son élément, il est à Miami.
Ouais. T'as raison.
Écoute, je me suis.
Le PSG se localise à Miami. C'est...
Ouais. J'ai vu le match ce matin. Franchement, il a été. T'as l'impression que
un but, une passe D.
T'as l'impression qu'il a jamais quitté le terrain. Alors oui, un but, une passe D, mais pas que ça. C'est son influence sur le jeu brésilien, sa capacité à créer le danger, à faire peser un danger permanent sur la défense colombienne. Il a été vraiment très bon, à l'instar de l'équipe brésilienne qui a fait un très bon match. Marquinhos et Silva, même si voilà, ils prennent 2 buts, mais ils ont été relativement
bon. Daniel Alves
qui joue maintenant au Brésil a été très bon, mais Neymar, voilà, c'est lui, il avait la pression pour son retour avec la sélection, il a la pression pour son premier match depuis sa blessure, il avait la pression par rapport à sa cote médiatique qui a tendance à un petit peu baisser en ce moment au Brésil. Écoute, là il est revenu, il a montré que c'était lui le patron de la ligne offensive brésilienne, donc très bien pour le Paris Saint-Germain. C'est une très bonne nouvelle pour le club, parce que dans la mesure où ils vont récupérer un joueur qui a voilà un match dans les pattes, qui a retrouvé des qui
il y a beaucoup d'émotions, il était très ému hier soir, hein.
Il était très ému, mais il a bien géré, il s'est pas laissé submerger. On voyait qu'il était heureux de retrouver le terrain, et parce que Neymar, c'est avant tout ça, c'est un gamin qui aime jouer au foot, et c'est l'impression qu'on a eu hier.
Super nouvelle pour le PSG, effectivement.
Super nouvelle. Après, est-ce que c'est de l'intelligence ou de l'inconscience de le faire jouer 90 minutes alors qu'il...
Si tu l'as dit, il a dit, je voulais le faire sortir. Et plus le match avançait, plus il était fort.
Il sentait bien.
Plus il était fort.
Il est monté en puissance, hein. En deuxième mi-temps, il est vraiment, tu sens pas le joueur qui a un creux physique. Alors qu'en face, c'était la Colombie qui a quand même mis pas mal de pression.
Je vais pas revenir sur le plan physique. Peut-être qu'il est bien. C'est sur la fragilité de la fatigue de fin de match. Tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est ces matchs-là, tu sais que c'est toujours tendu.
Il y a eu un instant frisson. À un moment, il prend un gros pet, je sais plus qui lui met. Je crois que c'est Zapata. Il me semble, je suis pas sûr. Mais il prend un gros pet et là tu dis oh là 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 là. Et puis alors, comme il en rejette un petit peu,
Mais
au final, il se relève pour aller râler vers l'arbitre.
Tu crois que les Colombiens, les Uruguayens, ils vont se gêner de savoir qu'il est un peu fragile, d'aller le titiller un petit peu?
Barrios aussi, lui, est rentré pas mal.
L'intelligence aurait voulu. Alors après, le match était indécis, le score était indécis. C'est ce qui fait peut-être aussi qu'il pouvait pas se passer de, vu qu'il était énorme, il pouvait pas se passer de lui.
Oh, mais ça compte trop du bar, ce match-là, de toute manière. Mais ouais, c'est vrai que 2-3 fois, il s'est pris et Uribe et Barrios sur le palto, et je l'ai trouvé assez solide.
C'est quoi, c'est bizarre, mais quand je regarde ces matchs, j'ai l'impression qu'il compte jamais pour du beurre, finalement.
Mais non.
C'est l'intensité qu'il y a dans les matchs.
Non, c'est sûr.
Il y a un jeu de mots, pas, non?
Non.
Ah non, je croyais qu'il y avait un jeu de mots.
Bah en tout cas, oui, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de savoir
que Neymar est en forme.
Mais il n'y a jamais eu de doute sur son niveau, niveau sportif.
Le fait de voir qu'il arrive comme ça après 6 mois d'arrêt, qu'il est en pleine forme, c'est bien.
Depuis le temps qu'il n'a pas joué, heureusement, hein, que Neymar brille, nous dit Mathieu sur le hashtag RMC Live. JC nous dit Neymar a confirmé son bon état de santé. Le PSG va l'attendre au tournant, à mon avis. Ça va chauffer dans le vestiaire. Pourquoi il dit ça? En tout cas,
non, Thiago Silva a dit qu'il remerciait Dieu que Neymar reste au club.
Messieurs, le quiz vient dans un instant. Quelques infos rapides à vous donner avant la fin de l'after. La folie Maradona à La Plata.
Ah oui.
Il va reprendre l'équipe de Gymnasia, on le rappelle, mal en point en championnat. 5 matchs, 4 défaites, 1 nul. Maillot en rupture de stock. Inscription en quelques heures de 1000 nouveaux socios hier, vendredi.
Il y a une chasse de Boca qui se sont inscrits même pour eux.
C'est incroyable. Ouais.
Première dimanche au stade Juan Carmelo Zerillo à domicile contre le Racing, champion d'Argentine, équipe de
Lisandro Lopez
et Dario
Benedetto.
Zvitanić.
Zvitanić, je suis obsédé par Dario.
C'est l'événement dans tout le pays. On en parlera évidemment dans l'after avec Gilbert dès lundi.
Il risque de prendre Ricky Centurion pour essayer de s'en manier. Alors le mélange, la rencontre Ricky Centurion-Maradona, à mon avis, ça peut donner quelque chose.
Mercredi, je tease RMC Sport, un superbe entretien à 21h. Nouvelle émission comme jamais. Une heure d'entretien signé Mohamed Bouafsi avec André Villas-Boas, le coach de Marseille, qui raconte notamment que Vincent Labrune l'avait approché en 2013 pour en faire son nouveau coach. Il devait se revoir une deuxième fois, sauf que Villas-Boas lui a dit non, désolé, je pars en Argentine, là, je dois aller voir Marcelo Bielsa.
Et le reste, c'est historique.
Labrune ne connaissait pas Bielsa, c'est qui ce Bielsa? Il s'est renseigné, Bielsa, 6 mois après, l'entraîneur de l'OM.
Merci Vincent.
Merci Villas-Boas aussi.
Ben, merci surtout Vincent d'avoir choisi Bielsa.
Messieurs, le quiz rapide, il reste 2 minutes 30, vous êtes prêts? Ludo, t'es prêt?
Non.
Allez, balance.
Je suis rincé complet. Donc
messieurs, Neymar, c'est 60 buts en 97 sélections désormais avec le Brésil.
Ouais.
C'est fou. On va jouer avec les sélections nationales.
Allez.
On est sur le continent brésilien. On attaque avec une question Seleção. Quel est le joueur le plus capé avec le Brésil? C'est pas les années 60, les gars. C'est histoire récente.
Dunga?
Non.
Taffarel?
Top. Ludo?
Mais non, c'est nul comme
Taffarel.
Ça.
Latéral.
Ah ben voilà,
c'est... Cafu, bah, 1-0 pour Ludo, 142 sélections. Comme Lilian Thuram, le plus sélectionné.
C'est nul, France, non, on les réponses à la volée, tu lui as donné un indice après.
Pour rester sur le. Pas mauvais joueur.
C'est facile, si tu te donnes 8 noms d'affilée, ça compte pas.
Ouais, en allez, fait,
il a mauvaise. Pour rester sur le même continent, messieurs, que le brésilien, on va continuer doucement. Jonathan.
Sur le continent brésilien.
Sur le continent.
Vas-y, allez, avance.
Jonathan devrait donner la bonne réponse a priori. Direction l'Argentine. Quel est le joueur le plus capé avec l'Argentine? 147 sélections.
Bah c'est Messi.
Baptiste Toutain.
Non, faux. Non.
Non, Mascherano.
Bien joué, un partout. Mascherano. Mascherano.
Oui.
Le nombre de buts et de sélections de Lionel Messi avec l'Argentine.
Pff, c'est le
plus proche. Sélection.
70.
C'est plus.
60.
Mais tu donnes des indices, arrête.
C'est beaucoup plus.
Bah 95.
Je dis rien, Ludo.
92.
136 sélections, Jonathan Macardy. 2-1, 68 buts. Messieurs, quel est le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre?
Wayne Rooney.
Bien joué. 3-1, oui, Wayne Rooney. Oui. 53 buts en 119 sélections. Équipe de France, messieurs. J'ai donné la réponse tout à l'heure, laisse tomber. C'est Lilian Thuram, 142 sélections. Autre question, équipe de France. Quel est le joueur qui détient le record du ratio but de sélection chez les Bleus?
Giroud?
Non.
Martin?
C'est l'histoire.
Marvin Martin?
L'histoire du football français.
Thierry Henry? Non, bah non. Marvin Martin?
Non. Marvin Martin?
Bah oui, ça va doubler.
C'est fini?
Non, on sait pas, vas-y.
Juste.
Fontaine.
30 buts en 21 sélections.
Ça compte pas.
Ça compte pas. Messieurs, quel est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection italienne? C'est dur.
Oh putain.
Non, c'est trop dur.
C'est quoi? C'est récent? Non, c'est pas récent.
Non. Luigi Riva, 35 buts en 42 sélections. Dernière question. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole, plus facile.
Villa.
Il est là, Jonathan. 59 buts en 98 sélections pour Villa.
Comment Maradia.
Ouais. Avant de se quitter, rapidement, hommage à Jonathan Macardy.
Il connaît Giroud, il connaît tout ça.
J'aime beaucoup, il connaît. Et pour moi, c'est trop tôt.
Il a fait barbe et cheveux. Giroud pour il connaît. Et il connaît, tranquille.
J'aime beaucoup, il connaît. Et pour moi, c'est trop tôt.
Merci Albin Azaï, star activité. Fin de l'after, c'est fini.
Je dédicace la victoire de Khabib à Samir du podcast Octogon, parce que c'est la famille.
Merci Jonathan Macardy, Ludo Bragnac. Demain, le retour de Gilbert pour l'after foot avec Daniel Riolo. À la semaine prochaine, messieurs.
Allez,
excellent chemin.
Salut,
bye.
Ciao.